Des grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Dans le morceau Miami Heat, le rappeur et youtubeur Mr. V dit « Désolé ma gueule pour ta vie austère, je les regarde de haut comme Rudy Gobert ». Bon, faut dire que le bonhomme culmine à 2m16, honnête. Champion épisode 15 avec un sportif au palmarès et à la taille XXL, le basketteur Rudy Gobert.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Champion du monde !
Il est champion à la vie !
Champion, mon frère !
Question pour un !
Champion du monde !
We are the champions !
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Salut Rudy. Alors avant de commencer, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Ce sera quand même plus
bien sûr.
Toute interview, cool. Alors, je le rappelle, tu as 29 ans, tu viens de Saint-Quentin, en Picardie. Aujourd'hui, tu joues aux États-Unis, tu es l'un des tout meilleurs joueurs de NBA. Tu viens aussi de remporter une belle médaille d'argent au JO cet été avec l'équipe de France. Alors, on va parler un peu de ton enfance. Et pour ça, je vais lire le pitch d'une bande dessinée que tu vas sortir en novembre, qui s'appelle Bash. Alors, c'est le pitch est sur une terre colonisée par un peuple extraterrestre. Le jeune Rudy vit seul avec sa mère dans un quartier pauvre. Il trouve refuge dans le sport le plus populaire de l'univers, le bash, un basketball brutal et spectaculaire, utilisé dans certains recoins de la galaxie pour résoudre les conflits. Son rêve, devenir le meilleur joueur de l'histoire. Il y a un côté un peu science-fiction, mais c'est un peu ton histoire, non, en fait ?
Bien sûr. Même si l'univers est totalement différent, ça reste des parallèles entre ma personnalité et la personnalité du personnage principal, des challenges qu'il va rencontrer, un peu l'histoire, bien sûr, l'enfance avec sa mère, etc. Donc tout ça, c'est similaire. Mais le but, c'est vraiment que les gens qui connaissent rien au basket, qui n'aiment même les gens qui n'aiment pas le basket, puissent vraiment kiffer l'histoire. Et voilà, que ça inspire aussi les jeunes. Ça, un peu comme certains mangas ou certains dessins animés qui nous ont tous inspirés.
Ouais. Alors t'en parlais justement, t'as été élevé par ta mère, puisque ton père, qui est d'origine guadeloupéenne, je crois, il est reparti aux Antilles quand tu étais encore tout petit. Ouais. T'es du coup très proche, non, de ta mère, j'imagine, hein ?
Bien sûr. C'est vrai que j'ai toujours été avec ma mère. Après, j'ai rejoint les sports-études à Amiens à l'âge de 13 ans. Après, à l'âge de 15 ans, je suis parti à Cholet, un centre de formation. Ouais. Donc, c'était dur pour elle parce que j'étais le petit dernier.
Et toi, à 13 ans, c'était pas trop dur ? C'est quand même tout petit, quoi, 13 ans, quand tu quittes...
C'était dur. Pas se mentir, je prenais le train à 6h20 du matin pour aller à Amiens, le 51 à Amiens. Puis après, je rentrais le vendredi soir.
Ouais.
En fait, j'ai très tôt su ce que je voulais.
Dès 13 ans, tu te dis ça ? Tu te dis, je veux aller au NBA et tout ?
Je me souviens, en fait, d'ailleurs, on en parle souvent, quand j'en ai parlé avec Julien Egloff, qui était l'entraîneur du Pôle Espoir à l'époque. Quand tu fais les tests pour entrer au Pôle Espoir, ils interviewent les jeunes, et moi, il m'avait dit, ils demandent toujours les objectifs.
Qu'est-ce que tu veux faire ?
Ouais. Et je me souviens, ils se souviennent que j'avais dit NBA.
Et toi, t'étais, du coup, alors, tu savais très tôt ce que tu voulais. Du coup, t'étais, genre, en cours et tout, quel genre de gamin ? T'étais plutôt calme, plutôt agité à faire des conneries ou...
J'ai toujours été un peu agité.
Ouais.
Ouais, j'ai toujours aimé explorer, j'ai toujours aimé pousser les limites.
T'as fait quoi la plus grosse connerie que t'as faite ?
Oula, on pourrait faire un podcast sur,
sur le top 3, je veux le top 3.
Disons qu'en fait, y a le côté positif, c'est que vu que je comprenais, j'ai toujours été un peu, l'école ça a toujours été un peu facile pour moi, donc je comprenais tout rapidement.
Ok.
Et donc je m'ennuyais un peu souvent.
Ouais.
Et donc fallait que j'occupe le temps. Je faisais des bêtises.
Des conneries quoi.
J'ai eu une période où je taguais les murs. Il y avait les Posca, les
Posca. À la peinture en fait. Quoi,
ouais, des marqueurs à la peinture. Et donc quand j'ai eu mon premier Posca.
Ouais.
On s'est amusé.
Toutes les tables et tous les murs de.
J'avais même fait un sur. Je suis pas fier, mais.
Sur quoi ?
Sur le palais de justice à Saint-Quentin.
T'avais écrit quoi ? Juste ton nom ou t'avais des messages ?
Mon blaze. Non, c'était juste mon blaze.
Juste le blaze.
C'était ton blaze.
Et alors, je voulais juste te faire écouter un petit truc, parce que j'ai lu une histoire qui m'a fait marrer, j'aimerais que tu m'en parles.
Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodans. Je fais ni là que au Ritz, ni au McDonald's.
J'ai lu que quand t'es en NBA, quand t'es arrivé, tu t'es fait passer pour Booba dans les vestiaires.
Ah.
C'est quoi cette histoire?
Belle anecdote. J'écoutais pas mal de Booba dans salle de musculation, vestiaire. Et bon, il y a un de mes coéquipiers qui me dit, mais
c'est quoi?
C'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. D'ailleurs, mon nom de rappeur, c'est Booba, mais dis à personne, s'il te plaît. Et alors, normalement, il y en a un qui a Google Booba. J'ai vu que c'était pas moi, en fait. J'ai un peu poussé le truc, mais bon, ils m'ont démasqué.
On revient un peu à ton adolescence. T'écoutais quoi, ado? Surtout du rap, toujours, ou un peu de tout?
Bah, un peu de tout, parce que bon, y avait ma sœur qui écoutait du Carla Bruni à l'époque. Et puis mon frère qui écoutait plus Britney Spears.
Ouais.
Donc en fait, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours été ouvert à différents styles
ouais,
de musique. J'avais un ami, un pote qui était skater à l'époque, qui était très métal, rock, ça par contre, ça m'a jamais attiré. Mais tout le reste, variété, j'écoutais même du rap US avant même de parler anglais. Je me souviens à l'époque 50 Cent, Snoop Dogg. Bien sûr, le rap français, La Fouine.
Ouais.
La Fouine, Booba. Il y avait d'autres Rof à l'époque. Ouais. Moi, j'étais pas les Clash
qui
se clashaient, mais moi, j'écoutais tout le monde.
Et tu regardais beaucoup la télé, jeune ou pas? Parce que je crois qu'on doit être à peu près de la même génération. Donc, je sais pas si tu regardais les. Moi, c'était Artaker à vif, Beverly Hills, tu vois.
Non, j'étais pas trop dans ces séries-là. Par contre, c'est vrai que petit, j'étais très dessin animé. Titeuf.
Ah oui, bien sûr.
Totally Spies.
Totally Spies, ouais, c'était bien aussi. J'aimais bien aussi, ouais.
Puisqu'il y a urgence, on fonce. Vite, nos gadgets.
Et là, depuis que t'es aux États-Unis, tu suis plus trop les émissions françaises?
Bah, plus sur les réseaux.
Ouais.
Mais je regarde pas. J'ai des potes comme Evan Fournier qui sont à fond Koh-Lanta.
Voilà, c'est ça. J'allais dire ça. Et lui, il est comme un dog de Koh-Lanta. Il commente. Il doit se lever, je sais pas. Ah non, cela dit, ça doit être plutôt dans la journée.
Il doit regarder.
Ah, il m'attend en replay, ouais.
Mais ouais, non, lui, par contre, il est à fond là-dedans. Il y a Nicolas Batum, pareil, qui a carrément. Il a toutes les chaînes françaises.
Ah ouais, lui, il est.
Ouais, il a M6, TF1, tout ça. Donc, il adore ça. Moi, en fait, je regarde
pas
vraiment
la télé.
Je regarde plus streamer, plus des séries, des choses comme ça, ou je regarde quand il y a des matchs. Voilà, mais je suis pas trop télé.
Et t'avais quel look à l'époque? Parce que à l'adolescence, on peut avoir des styles un peu techniques, mais c'est surtout important quand t'es tu vois au lycée d'avoir la bonne marque, la bonne sable.
J'avais pas trop de flow à l'époque. Hein.
Le flow était.
En fait, vu que j'étais grand pour mon âge.
Ouais, bah ouais. Il
y a eu la période baggy, donc ça m'a grave aidé.
Ouais.
Parce qu'en fait, tout le monde mettait des baggy, des jeans super larges. Et donc, je pouvais prendre des jeans bien plus grands que ma taille.
Ouais.
Et donc, ça allait, ça passait. Puis après, voilà, quand je suis devenu pro, j'ai commencé petit à petit à m'habiller un peu mieux. Puis après, avec la NBA, j'ai pu. Voilà,
parce qu'en NBA, maintenant, ils sont tous ultra lookés, quoi. Tu vois, les mecs comme Westbrook, même Ibaka, tu vois,
c'est clair qu'il y a...
Ils sont en mode Fashion Week, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve qu'il y a un côté cool, parce qu'il y a un côté maintenant, c'est carrément un challenge, limite, c'est devenu un sport.
Et c'est qui le joueur qui a le plus de flow en NBA, selon toi, qui a le plus de style?
Bah, pour moi, le style, c'est subjectif.
Ouais.
Après, tout le monde est différent. Moi, j'ai mon coéquipier Jordan Clarkson. Une ou deux fois, il fait des trucs un peu. Tu vois, il est venu avec un kilt.
Ouais, il fait des petites narines, c'est bien.
Il avait mis un kilt en bas et une doudou d'en haut. Et bon, c'est marrant, mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, voilà, au final, on s'en fout. Quoi.
Ouais, on s'en fout.
Voilà, on s'habille, on a un style. C'est cool de pouvoir montrer notre personnalité aussi en dehors du terrain.
Alors aujourd'hui, t'es devenu le sportif le mieux payé de l'histoire du sport français, au-delà des chiffres. T'es quand même un symbole, toi, qui viens d'un milieu modeste. Comment tu vis ça, tu vois?
Disons que pour moi, j'ai une chance, c'est que ça se fait petit à petit. Je suis pas arrivé de Saint-Quentin à signer un contrat comme j'ai signé là. J'ai eu le temps de me développer petit à petit, et j'ai toujours pris les habitudes de travail, de sacrifice très jeune. Et donc j'ai toujours gardé ça. Et voilà, la passion pour mon sport, la passion dans ce que je fais. Voilà, elle est toujours là et c'est ça qui me motive au final. Donc j'ai toujours eu, je me suis toujours un peu séparé de cet aspect financier, même si bien sûr le confort, voilà, aussi le fait de représenter mon pays là-bas aux États-Unis et de le faire de la belle manière, c'est une fierté.
Est-ce qu'à un moment, quand tout marche et quand t'as le succès, tu t'es dit, genre là j'ai pris la grosse tête, ou tu vois, ce qui peut arriver quand tout le monde te dit que t'es le plus fort, Et à un moment où tu t'es dit genre putain là, non là je prends trop la grosse tête, je suis un ouf.
Bah en fait non, parce que je me suis toujours plus concentré sur les critiques que sur les, ah ouais, les louanges bizarrement. Et donc en fait j'ai toujours plus vu le qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que voilà. Lui il me dit que je pourrais pas faire ça, donc j'ai envie de le faire. Il y a des joueurs qui aiment pas être sur les réseaux parce que ça les affecte.
Ouais bien sûr.
Ça affecte leur confiance, etc.
Bien sûr. Moi, toi, t'arrives à prendre du recul.
Moi j'ai toujours aimé un peu, tu vois, un peu y être, un peu voilà, voir les critiques.
Ah, mais parfois c'est gratuit et ça le rend fou quoi.
Bah c'est souvent gratuit, c'est souvent oui c'est souvent là des gens frustrés souvent, mais malgré ça des fois c'est vrai que c'est fun et ouais, ça peut te motiver aussi. Mais ouais, j'ai toujours bien aimé me nourrir un peu de ça. Après maintenant disons que j'arrive à un âge maintenant où je commence à être un peu au-dessus de ça, mais on est tous humains, tu vois, on a tous ouais, on a tous plus ou moins un ego et voilà, il y a des choses qui peuvent te motiver, qui peuvent te toucher plus que d'autres.
Mais souvent que les sportifs de haut niveau, c'est quand même beaucoup de sacrifices. T'as l'impression de faire des sacrifices niveau, tu vois, niveau de la bouffe.
On peut voir ça comme un sacrifice, ouais, mais moi j'ai toujours apprécié en fait. J'ai toujours apprécié, bien sûr, bien manger.
Ça, tu l'as fait depuis toujours.
Mais bah depuis toujours. Après, bien sûr, t'évolues au fil du temps, t'apprends encore plus, tu te connais de mieux en mieux.
Voilà, et toi, t'as un chef, non, qui fait gaffe.
Voilà, j'ai toujours. En fait, ça s'est passé à Cholet, donc ma saison avant la draft.
Ouais.
Donc ma dernière saison à Cholet, en début de saison, j'avais mon appart, donc je me faisais à manger, mais bon, c'était souvent des raviolis, des pâtes.
Classique.
Tu vois, les trucs un peu.
Les trucs faciles et rapides.
Ouais, quand tu rentres dans l'entraînement, t'es KO.
Ouais.
T'as juste envie de te poser et bon, t'as pas envie de cuisiner pendant une heure.
Ouais. Tu
vois. Et donc, bon, je me faisais mes trucs un peu à la va-vite. Voilà, je cuisinais très vite fait. Et en fait, j'ai eu une entorse à la cheville en début de saison. Après, je suis revenu. Et boum, je me refais une entorse à la cheville. Et en fait, je me rends compte que.
C'était parce que t'étais là.
Et aussi, je sortais en boîte le week-end. Ouais. Comme tout le monde, comme tous les jeunes.
Bien sûr.
Vois, tu sais pas. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais en fait, si je veux aller en NBA. Faut
arrêter tout ça.
Bah, je peux pas. Je me blesse. Là, c'est ma saison avant la draft. Si je me blesse, je peux pas être drafté, quoi. J'ai carrément arrêté de boire de l'alcool pendant la saison, ou très peu.
Ouais.
J'ai eu la chance de rencontrer. J'ai été mis en contact avec une cuisinière. Donc une dame qui voilà me pouvait cuisiner pour rien quoi,
ouais,
qui venait cuisiner chez moi, qui faisait des super des gros plats
et tout, ouais, bien équilibré et
des
tout,
des gros plats voilà midi et soir, donc c'était ouais, ça m'a changé la vie,
ouais,
et j'avais besoin de prendre du poids, donc en fait j'ai vraiment pu progresser au fil de la saison,
ouais,
et je me suis plus blessé depuis, j'ai pu être drafté, et donc dès que je suis arrivé en NBA, ben t'imagines que j'ai voilà, je me suis dit bon, maintenant que je gagne un peu mieux ma vie, je me prends une cuisinière tu vois pour vraiment, chaque repas, ouais. Et c'est devenu un peu quelque chose qui était très important pour moi.
L'été dernier, donc, t'as remporté une médaille d'argent à Tokyo avec l'équipe de France. Bon, c'était face aux États-Unis, ça s'est joué à pas grand-chose en plus.
C'est terminé sur cette victoire américaine 87-82. La France se contente d'une très très belle médaille d'argent.
Comment t'as vécu ces JO, toute cette période?
Bah, c'était une super expérience. Franchement, ouais, je suis très content de ce qu'on a accompli.
Et c'était comment? C'était bien l'ambiance à Tokyo et tout? C'était bizarre ou pas?
Bah écoute, il y avait les protocoles sanitaires, bien
ça,
sûr.
Tout donc était fermé.
Puis après, nous, on était dans le village, donc quoi qu'il arrive, on n'est pas.
Il y a de l'ambiance dans le village quand même, un peu ou pas?
Bah ouais. Il y avait une bonne ambiance. Tu vois, c'est toujours une bonne vibe. Tu vois, dans le village, c'est spécial. T'as tous les athlètes qui sont là.
Ouais,
il y a des athlètes pour qui c'est leur vie, quoi.
Ouais, bah ouais.
Nous aussi, c'est notre vie. Mais je veux dire, nous, on a nos saisons NBA, etc. Il y a des athlètes qui.
Ouais, c'est vraiment ça, l'événement.
C'est
vraiment ouais,
c'est le rendez-vous. Ouais. Là, ils bossent déjà pour Paris. Ils pensent qu'à Paris.
Ouais.
Nous, on a nos saisons, etc. Donc, ouais, c'était. C'est une énergie, tu vois, spéciale. C'est unique, les Jeux Olympiques. Et bon, malgré les protocoles sanitaires, on était. Ouais, c'était cool.
Moi, du coup, il y a Camille Lacour qui m'avait raconté que lui, c'était les nageurs. Et les nageurs, c'est souvent eux qu'il faut aller voir pour connaître les endroits où il y a la teuf. Parce que eux, comme ils sont au tout début de la compétition, ils terminent très vite.
Ouais.
Et donc après, ils font que sortir. Il y avait des teufs un peu comme ça ou non? Pas trop.
Je sais pas s'il y avait. Bon, il y avait des. Moi, j'ai entendu des petits trucs dans certains bâtiments. Il se passe des petites fêtes, des petits trucs.
Ouais.
Après, nous, on était concentrés, tu vois, sur...
Ah, vous, le problème, c'est que vous allez au bout, donc forcément, jusqu'à la fin.
On était vraiment un peu les relous avec les plus jeunes. On voulait pas faire les darons, mais ouais. On voulait vraiment qu'ils comprennent que...
Faites-moi de bruit.
Si vous allez à une soirée... bon, je sais pas, on sait jamais, mais il y en a un qui teste positif. On peut peut-être pas jouer un match, et bon, on peut passer à côté de ce qu'on a pu faire au final. Donc, pas être dans la parano, mais on voulait pas qu'il y ait de raison de... qu'on se dise à la fin, putain, si vous n'étiez pas allé à cette soirée, peut-être on a une médaille, tu vois. Donc,
pareil, mais toutes les chances de son côté, quoi.
C'est ça, exactement. Tout en prenant du plaisir et en kiffant, parce qu'il faut kiffer l'expérience. C'est pas l'armée, quoi.
Ouais.
T'es là, c'est les Jeux Olympiques. Non, mettre toutes les chances de ton côté.
Et une fois que vous aviez la médaille, là, vous avez fait la teuf, non?
Quand même, bah ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Après,
c'était à Paris la teuf ou c'était à Tokyo?
Il y a eu la soirée à Tokyo.
Ouais.
Donc on a célébré un peu avec les basketteuses parce que. Bon, nous, on a eu notre médaille d'argent et on voulait vraiment pas que les filles, elles perdent si elles perdent, l'ambiance va être un peu chelou dans l'avion, etc.
Ouais.
Donc, les filles, elles ont gagné le bronze, donc c'était cool.
Ouais,
et donc, on a célébré ça un peu au village, un peu entre nous. Après, il y avait les autres équipes, il y avait le handball, le volley aussi. Et donc, après, le lendemain, on allait au Club France l'après-midi pour faire un peu les interviews, etc. Mais bon, là-bas, il y avait les volleyeurs, les handballeurs. ça buvait pas que de l'eau.
Pour finir, alors souvent, je demande, tout le temps d'ailleurs, je demande à mes invités leur panthéon personnel. Tu vois, s'il y a un album que tu dois retenir ou une chanson que tu dois retenir, un bouquin, pareil, qui t'a marqué, un acteur, une actrice, et un film et une série. Donc si, par exemple, tu dois retenir un album que t'as le plus écouté dans ta vie, si tu devais en garder un, ou une chanson, je sais pas, qui te rappelle un truc vraiment particulier.
J'en ai beaucoup.
Bah, j'imagine, c'est compliqué d'en choisir une.
Une chanson qui m'a inspiré, bon, ça va peut-être pas plaire à certains, mais je dirais Pitbull.
Ouais.
Je me rappelle ça.
Sur le beat de Mistral Gagnant de Renault.
Bah, je m'identifie un peu à ça, tu vois, à ce son-là.
Par le V, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne.
Un bouquin que t'as lu, que ça peut être récemment ou pas.
L'Alchimiste de Coelho.
C'est quoi? C'est un.
C'est un bouquin un peu philosophique par rapport à ton chemin, ton aventure personnelle, dans la vie. Donc c'est quelque chose, c'est cool. J'ai bien aimé ce livre.
Est-ce que t'as un film, ton film préféré, le truc que t'adores mater?
Space Jam, c'est le premier film de basket que j'ai regardé.
Ouais, c'est génial.
Je dirais pas que c'est un film qui m'a marqué, mais c'est là où j'ai découvert un peu le basket différemment.
T'as vu le 2 ou pas là?
Non, suite, j'ai pas encore vu.
J'ai pas vu non plus.
Ouais, faudra que je le vois. Mais je sais pas si j'ai envie de casser le mythe.
Il était trop bien, il était parfait.
Gladiator, c'est un film qui m'a marqué. Scarface, c'est un de mes films préférés aussi.
Classique.
Moi, je vais posséder ce qui me revient.
Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony?
Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans.
Et du coup, un acteur, si t'as un acteur qui te...
Il y en a plusieurs. Will Smith... Denzel Washington, Leonardo DiCaprio,
j'aime
beaucoup.
Et une série, tu mates beaucoup de séries ou pas? Tu me disais que tu regardais pas mal.
Bah ouais, en série, une des premières séries que j'ai commencé à regarder, c'était Dexter.
Ah yes, ouais.
Donc j'étais à Cholet, j'ai commencé à mettre dans la série. Après, j'ai commencé Game of Thrones avant tout le monde.
Ah, au tout début?
Bah par hasard.
Ouais.
Je me mets là-dessus, sur un truc de téléchargement illégal.
T'étais pionnier.
C'est à partir de la saison 2 ou 3 que tout le monde a commencé à en parler, donc tout le monde a commencé cette série.
Ouais.
Et ouais, j'avais déjà commencé à Cholet, en fait.
Ah ouais, pionnier du trône de fer, des Game of Thrones. Et en ce moment, c'est quoi ta série? Tu regardes quoi?
Vikings.
Tout le monde en a parlé, j'ai pas vu ce truc.
Vikings, j'ai vraiment bien aimé parce que...
C'est Ragnar, là, c'est ça?
Ragnar, qui, en fait, il découvre un peu comment pouvoir naviguer encore plus loin et donc pouvoir aller en Angleterre. Et donc, ils arrivent en Angleterre, ils trouvent un monastère, ils zigouillent presque tout le monde.
Ils filment tout le monde, quoi.
Mais en fait, au final, ils se prennent amitié avec un prêtre.
Ouais.
Et donc, ils commencent à... Parce qu'ils ont leur religion, ils ont plusieurs dieux, de polythéisme. Donc, ils ne savent plus, en fait. Tu vois, ils disent, mais en fait, eux, ils croient en ça, nous, on croit en ça. Est-ce que vraiment, ça existe, la religion? Est-ce que le truc... C'est intéressant, quoi. C'est grave intéressant.
Vikings.
La psychologie, ouais.
Ok, je vais mater, trop cool. Et ben voilà, merci beaucoup Rudy, c'est fini.
Ben, merci à toi.
Et c'était bien cool de discuter avec toi.
Ouais, c'était cool.
Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et comme d'hab, mettez des petites étoiles si ça vous a plu. Comme ça, on sera mieux référencé et on pourra dépasser Entrer dans l'histoire de Laurent Deutsch au classement des podcasts. Et ça serait balèze. Merci d'avoir écouté Champion. À la prochaine. Salut.